Le grand témoin.
Bonjour et bon dimanche. Chez vous, grand témoin, vous fait découvrir aujourd'hui Annie Bambe Chikunda. Elle est militante des droits de la femme et défenseur des droits de l'homme, membre active de plusieurs réseaux des droits de l'homme. Alors, avec vous, dans cet entretien, nous allons vous présenter aux auditeurs des radios Okapi qui nous suivent en ce moment. D'abord, je souhaite une bonne fête de la femme.
Merci et à vous autant.
Merci et bonne fête également à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à travers le monde grâce à notre site internet www.radiookapi.net. C'est votre fête, c'est notre fête. Alors, nous allons célébrer cette fête dans ce studio avec Madame Annie Bambe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est militante des droits de la femme et défenseur des droits de l'homme. Avant de parler de toutes vos activités au sein des associations de droits de l'homme, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Madame Annie Bambe, vous êtes née où et quand?
Je suis née à Kananga, un certain 28 mai.
D'une certaine année. C'est à Kananga où vous avez grandi?
J'ai grandi à Kananga jusqu'à l'âge de mes 19 ans.
Puis vous êtes venue à Kinshasa?
Non. Je suis allée à Lubumbashi, à l'université de Lubumbashi pour les études, où j'ai commencé en médecine parce que j'ai fait les études scientifiques option biochimie. Et j'espérais un jour devenir médecin. C'était ça mon rêve. Et je suis arrivée à Lubumbashi, ça n'a pas tenu. Je n'ai pas su m'adapter.
À quoi?
Disons à l'université où les conditions d'études étaient difficiles.
Difficiles dans quel sens? Il y avait beaucoup d'étudiants?
Tout à fait, beaucoup d'étudiants dans l'auditoire. On était, nous qui étions habitués, parce que moi quand j'ai eu mon diplôme d'état dans ma classe, nous étions à 10. Donc on avait une grande salle où il y avait plusieurs bancs, mais 10 élèves seulement. Et j'arrive à l'université où je suis dans un auditoire où il y a 1000 étudiants. Et pour avoir une place assise, c'était pas facile.
Il fallait arriver à 5 heures.
Et j'ai dû même quitter la maison à un certain moment pour monter au home. Et c'était toujours difficile. Je n'arrivais toujours pas à avoir une place. Et puis là aussi, il y a un autre élément que je n'ai pas pu dire. Je n'avais pas eu l'inscription en médecine. J'ai eu au départ l'inscription en géologie. Donc je devais faire les deux. Aller faire acte de présence en géologie et revenir en médecine pour ne pas rater les TP et consorts, ce n'était pas facile.
Mais puisque vous n'aviez pas obtenu l'inscription en médecine, est-ce que vous étiez obligé d'aller pour faire les TP et autres?
Oui, j'avais demandé un recours et on m'avait promis que le nom pouvait sortir à la dernière liste. Vous savez, la dernière liste sort quand? C'est au mois de juin. Et le mois de juin et juillet, c'est déjà la session. Donc j'ai dû faire entre les deux. Et même en géologie, j'avais quand même eu de bons points en géologie, mais comme je n'aimais pas la géologie, moi j'étais née à la médecine, je suis allée présenter la session en médecine et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et ça m'a vraiment découragée. Ça m'a découragée parce que je m'étais vraiment donnée, j'étais assidue et j'ai dû avoir quelques
années
de recul.
Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous n'avez pas réussi aux examens ou finalement la liste n'est pas sortie?
La liste finalement est sortie. Au mois de juin, la liste est sortie et je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi et ça m'a découragée. J'ai fait un recul et après, je suis allée...
Vous avez décidé de continuer en géologie?
Non. Je ne voulais pas. Quand bien même mon nom était toujours en géologie, je ne voulais pas. Je suis allée faire la chimie agroalimentaire à la Polytechnique. Et là, ça marchait, mais on a dû prendre beaucoup de temps, parce qu'il y avait des années blanches. On a connu les années blanches avec Liti Timboka et tout ce qu'il y a eu. Vraiment, c'était des longues années d'études. Et finalement, bon,
alors,
on a pu terminer.
Vous êtes chimiste agroalimentaire. C'est qui vous a conseillé?
Bon, ça aussi, c'était dans mon enfance. Quand j'étais en cinquième année, j'avais un oncle qui était archevêque de Kananga, de fin Monseigneur Bakole Martin, qui avait un ami à lui ou un fiel à lui, le feu inventaire congolais Kabasele Mwamba, paix à son âme. J'étais en cinquième secondaire. Quand moi je lui parlais de la médecine, mon oncle me disait « Non, un jour je vais te présenter un fiel à moi qui fait du vin ». qui fait le
pouce café.
Pouce café. Comme ça, tu vas être en contact avec lui. Tu sais, c'est un juriste, mais il fait les choses de la chimie. Or, toi, tu fais la biochimie, donc vous pouvez bien vous entendre. Et il m'a présenté justement Kabasele Mwamba. C'est là où j'ai appris qu'il existait une option chimie agroalimentaire. Mais je ne voulais pas de ça. C'est quand j'ai eu des difficultés que j'ai pensé que je pouvais faire la chimie agroalimentaire et j'ai fait ça marcher.
Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir fait ça? Vous regrettez un peu? Même si votre premier choix, c'était la médecine, devenir médecin.
Non, je crois que la médecine n'était pas ma voie. N'était pas ma voie, c'est parce que on était un peu orgueilleuse à l'époque. Nous étions dans un lycée où il y avait un collège à côté, c'était la compétition. On voulait prouver aux garçons qu'on pouvait faire les études que font les hommes. Déjà à l'époque, on avait ça. Je crois que non, ce n'était pas ma voie. Je ne me vois pas à médecin.
Donc, pour votre combat sur l'égalité entre l'homme et la femme a commencé depuis longtemps.
Tout à fait.
Alors, vous avez grandi dans quelles conditions?
Bon, j'ai eu la chance de grandir dans une famille modeste, mais qui avait de valeurs. Où mon père déjà, qui était un enseignant, un moniteur, comme on les appelait à l'époque, ma mère également une maîtresse. Et ils nous ont fait grandir déjà avec, dans l'esprit d'égalité. Donc, dans notre maison...
On ne faisait pas la distinction entre garçons et filles.
Jamais. Il n'y avait pas de distinction entre garçons et filles. On nous a accordé les mêmes chances, en tout, les mêmes chances. Même les travaux de ménage, tous le faisaient. D'ailleurs, moi, je me rappelle, si j'ai dû piler le pondou avant mes 19 ans, c'est peut-être deux fois. Ce sont au contraire les garçons qui les pilaient. Torchonner la maison, je ne crois pas avoir suffisamment fait ça. Donc les garçons étaient à tout, même préparer. Mes frères, ils savent faire la cuisine.
Donc vous étiez tous traités
de
la même manière.
Et ça, c'était vraiment fantastique.
Alors quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant que vous grandissiez, Annie Bambé?
Ah, les souvenirs.
Il y en a beaucoup, j'imagine.
Il y a beaucoup de souvenirs. Il y a beaucoup de souvenirs, mais j'ai gardé quelque chose que la plupart dans mon entourage, les grandes personnes dans mon entourage, quand ils me donnaient des conseils, ils parlaient de moi, en tout cas, ils me disaient, toi, tu iras loin. Toi, tu vas faire de la politique. Déjà, j'étais petite, on me disait ça. Toi, tu vas faire de la politique. Toi, tu seras une grande dame. Tu n'es
mais
pas comme les autres.
Pourquoi ils disaient ça?
Bon, je ne sais pas, parce que j'étais active, j'étais...
J'étais une fillette très éveillée.
Très éveillée, j'étais très éveillée, j'étais polie, j'étais assidue. Quand je faisais des choses, je les faisais bien, parfaitement, je me donne corps et âme.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Bon, dans la vie, je n'aime pas l'hypocrisie. Quand il y a quelque chose, un mal, je préfère que la personne me le dise que... aller le dire à côté. Habituellement, quand la personne le dit à côté, je ne prête pas oreille. Et on m'a même dit dans ma famille que c'est ce que signifie mon nom, Bambé. Bambé veut dire qu'on dise, même si on a dit. Ça fait rien.
Ça fait rien. Et Chikunda?
Chikunda, ça veut dire la vieille, la grande dame, la notable. C'est ça, Chikunda.
Vous êtes notable?
Vraiment. Vraiment.
Notable,
vous le dites.
Alors, Annie Bambé, mariée?
Oui.
Mère de combien d'enfants?
J'ai un enfant qui a aujourd'hui 17 ans.
Alors, Annie Bambé, vous êtes militante de droits des femmes, défenseur des droits de l'homme. Vous êtes militante depuis 1999.
Tout à fait.
Ça fait longtemps quand même, hein, que vous êtes dans cette lutte-là.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans le droit de l'homme?
C'est-à-dire, c'était déjà un apprentissage à l'école, un apprentissage dans la famille où on avait toujours à plaider pour les autres. Mais ça s'est vraiment formalisé, c'est en 1999, quand je rentre à Kananga et je remarque dans la ville qu'il y a des enfants qui portent des charges, qui vendent de l'eau, qui puisent de l'eau pour des grandes personnes. Donc les enfants de moins de 15 ans, que ce soit les filles ou les garçons. Et ça m'a choqué parce que moi, quand je quittais Kananga, il n'y avait pas ça. On ne connaissait pas ces phénomènes-là des enfants, disons qu'on a appelé après les enfants dans la rue. c'était pas tellement les enfants de la rue, mais c'était des enfants qui vivaient dans leur maison, mais qui passaient toute leur journée sur la rue. Et ça m'a vraiment interpellée avec les amis que j'ai trouvés à Kananga. Je peux citer aujourd'hui maître Irène et Sambo. Et nous nous sommes mis ensemble et Fodiek est né. Donc. Et là, Fodiek, ce n'était pas cette version. Ça, c'est Fodiek, c'était la Fondation pour les droits de la jeunesse au Kasaï. Et au Kasaï, c'était les deux Kasaï, Kasaï occidental, Kasaï oriental.
Et maintenant, vous avez élargi?
Tout à fait. C'est depuis 2006 maintenant que c'est devenu une organisation nationale où, qui s'étend sur la République.
Alors là, vous nous donnez la genèse de votre ONG, Fodiek. Vous êtes présidente nationale.
Je suis présidente nationale.
Oui, et par rapport aux droits de l'homme, parce que vous avez commencé ça en 99, est-ce que c'est parti de la situation des enfants que vous avez trouvé?
Tout à fait. Des abus qui étaient commis sur les enfants, où j'ai trouvé que l'État était irresponsable, pouvait laisser, ne prenait pas en charge les enfants, l'éducation des enfants, la scolarité, où les enfants, pendant que les autres allaient à l'école, la grande majorité d'enfants étaient sur la rue, au vu, au su de tout le monde. Et nous avons monté un mouvement contre cette situation-là, où petit à petit, même le gouverneur à l'époque a dû même mettre en place un foyer où il a pu récupérer certains enfants qui n'étaient pas de Kananga. Il y avait des enfants qui n'étaient pas originaires de Kananga, mais qui venaient là, mais qui n'avaient pas de toit. Alors il a dû les mettre quelque part, les encadrer avec la division des affaires sociales. Et nous avons pu mettre en place des clubs des droits, des clubs de discussion où les enfants, que ce soit les enfants de la rue qui avaient leur club, que ce soit les enfants, les élèves ou les écoliers, et ils se réunissaient, ils choisissaient eux-mêmes les jours où ils devaient se réunir, et avec un encadreur que nous leur donnons, et ils discutaient de leurs droits dans ces clubs-là, et même ils se choisissaient un modérateur, un rapporteur, un secrétaire pour administrer leur club avec l'accompagnement d'un encadreur Fodiek. Et cette situation avait beaucoup plu aux autorités et aux partenaires, et les organisations qui s'occupaient des droits de l'enfant à l'époque ont dû suivre, et tout le monde qui s'occupait des droits de l'enfant avait opté pour la création des clubs de discussion des droits de l'enfant dans leur organisation, où les enfants, à l'époque, comme on n'avait pas encore la loi portant protection de l'enfant, c'était la convention relative aux droits de l'enfant qu'on exploitait. Et je salue l'avènement de la loi portant protection de l'enfant, parce que c'est une loi qui intègre les dispositions de la convention relative aux droits de l'enfant.
Voilà, donc en 2006, votre ONG devient nationale, mais entre-temps, entre 99 et 2006, on va prendre la fourchette de 2003 à 2006, vous avez été députée nationale pendant la période de transition.
Oui, oui, c'est par l'action, l'activisme à la société civile où j'ai évolué. Lorsqu'on a créé le RENADOC, le Réseau National des Organisations Droits de l'Homme, au niveau du Kasaï Occidental, c'était REPRODOC, Kasaï Occidental, et moi j'étais le rapporteur administratif de ce réseau-là. Et il y a eu le dialogue intercongolais. C'est à ce moment-là, quand on a élargi, le dialogue était fini, et qu'il fallait maintenant mettre en place les institutions. C'est comme ça que la société civile, Kasaï Occidental, m'a désigné. Je n'avais pas postulé.
Pourquoi vous? Vous vous êtes jamais posé cette question. Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres, alors qu'il y avait beaucoup qui avaient postulé?
J'ai compris que c'était le destin.
De 2003 à 2006, vous êtes députée nationale.
Oui.
Lorsqu'on organise les élections, les premières élections démocratiques, on est en 2006, quand vous avez postulé.
Oui, c'est-à-dire...
En tant que société civile, vous avez goûté à la politique et vous vous êtes engagé.
Tout à fait. On arrive en 2006 et avec la loi électorale, on détermine comme jusqu'à maintenant que ceux qui participeront aux élections, c'est sous deux formes. Ou soit vous êtes sur une liste électorale, ou soit vous formez votre liste seule en tant que candidat indépendant. Et moi, je mesure mes chances en tant que candidate indépendant. Je trouve que les chances seront minimes. Et je me dis, ça, je ne peux aller que sur une liste. Et là, il y a ARC, ARC n'existait pas. Et nous créons ARC. Nous créons ARC et je suis parmi les 23 fondateurs de l'ARC.
Ok.
Oui, on crée l'ARC, qui est un parti centriste, un parti des libéraux. Je me dis oui, dans un parti des libéraux, donc je peux bien exprimer ma vision. Donc on n'est ni à gauche ni à droite, donc on est des modérés.
Là c'était en 2006.
Là c'est en 2006. Et c'est comme ça que je me présente sur la liste des LAC. Et avant qu'on se présente, LAC bascule. Alors qu'on avait déjà déposé les listes, LAC bascule un mois avant, LAC adhère à la majorité présidentielle. Et ça, c'était un coup pour moi. C'était un coup. Parce que j'avais déjà préparé l'électorat par rapport à la vision du parti et consort. Et quand ça bascule, vous savez, Kananga, c'est toujours du côté de l'opposition. Donc, mes électeurs disent non, ils adhèrent pas dans la voie dans laquelle je me suis mise de la majorité présidentielle. Et ça, c'était foutu au départ. Donc, je suis partie aux élections perdantes. Je savais que
vous
ça...
Vous saviez que ça ne marcherait pas.
Parce qu'ils me disaient, quand j'étais en campagne, ils me le disaient. Il me disait, dis non, nous ne pouvons pas parce que si nous votons pour toi, nous avons voté pour la majorité. Nous avons voté, non, nous ne pouvons pas. Et ça, c'était clair. J'ai battu campagne avec pleurs. C'est comme ça qu'après, j'ai dû arrêter.
Vous avez arrêté la politique?
J'ai dû arrêter avec l'ARC. Oui, parce que je ne voyais pas comment je pouvais évoluer dans cette optique-là. Parce que mon électorat, parce qu'il faut écouter l'électorat. Mes électeurs disent, nous ne voulons pas de ça. Et moi, je ne dois pas m'entêter. Je me suis dit, j'arrête. Et j'ai arrêté. Je me suis...
Vous avez quitté l'ARC pour adhérer à notre parti politique?
Non, j'ai arrêté. J'ai arrêté avec l'activisme politique. J'ai arrêté.
Jusqu'à ce jour?
J'ai arrêté, oui. J'ai arrêté.
C'était un grand choc apparemment.
Tout à fait. Je ne me suis jamais remise de ça. Je ne me suis jamais remise. Parce que sur ma liste, j'avais porté la liste de 5 personnes, de 5 sièges... Et j'ai fait sortir un député sur cette liste-là, en 2006. Je me suis dit que je peux faire la politique autrement. Hein. Avec les droits de l'homme, on fait la politique autrement et proprement. Parce que même ceux qui m'avaient poussé à adhérer à l'ARC, c'était justement l'expérience parlementaire. Tout ce qu'on a pu faire... Le combat d'inscrire la loi, d'inscrire le droit de la femme dans la parité, dans l'article 14, et même le fait de rendre obligatoire et gratuit l'enseignement fondamental, c'est une lutte que nous avons menée et que nous avons réussi. Et je me suis dit, en étant dans la politique, on pouvait bien faire asseoir les choses, on pouvait bien faire changer les choses. C'était ça, ma vision. Que si je suis dans la politique, avec ce qu'on a déjà commencé, je peux faire changer les choses. Mais ça n'a pas marché de cette manière-là. Je me suis dit, bon, on va faire la politique autrement, en étant du côté du contrôle.
Et vous allez continuer comme ça ou bien un jour, vous pouvez toujours retourner?
Bon, je ne sais pas encore, mais ce n'est pas encore dans mes intentions. Non, je me plais dans les doigts de l'homme.
Alors, on va souffler un peu avant de continuer notre émission, Annie Bambé. Je l'ai dit, c'est le mois de la femme. On va parler dans la deuxième partie de notre émission du thème retenu cette année par rapport à cette journée de la femme. Autonomisation et participation politique de la femme congolaise, c'est le thème national. On va en parler dans la deuxième partie de notre entretien, mais on va souffler un peu. Comment vous passez vos moments de détente quand vous n'êtes pas occupé? Comment vous vous détendez?
Bon, moi, j'adore les voyages. J'adore le film. Je suis une accro du cinéma. J'adore.
On n'a pas de salle de cinéma ici. Comment vous faites à la maison? Vous contentez de regarder à la maison?
Je me contente de regarder à la maison. Mm-hmm. Mais sinon, c'est... S'il y a une occasion se présente, je suis dans un endroit où il y a une salle de cinéma, j'y vais.
Alors, vous dites que vous aimez voyager.
Oui.
pour découvrir d'autres cultures.
Tout à fait. Faire le mixage entre les cultures, hein, connaître ce que les autres font, découvrir.
Et si c'est une expérience intéressante, vous revenez avec ici au pays.
Tout à fait, tout à fait.
Vous écoutez aussi la musique?
J'écoute la musique, j'écoute.
Alors, comme c'est le voix de la femme,
oui,
c'est moi qui vais vous dédier une chanson.
Waouh!
On va trouver une belle chanson d'une chanteuse congolaise, hein?
Waouh!
Bilia Ben, Pongolov, Chalamwana. Non, je vais vous laisser le choix.
Que moi-même j'ai choisi?
Oui.
Ah non, si j'ai choisi, là, ça va pas. Choisissez pour moi. Je veux voir.
Peut-être que je vais vous choisir une chanson qui vous fera pas plaisir.
Non, choisissez.
Non, choisissez un peu.
Parce que comme c'est le mois de la femme, et toutes ce que vous avez citées sont des femmes, donc je ne voudrais pas faire la discrimination. Donc,
ah,
choisissez
c'est
pour
ça,
moi.
Ok.
Choisissez pour moi.
Bon, Mani Bambi, on va trouver une chanson, soit de Tchalamoala, Mbilia Belle, ou je ne sais pas qui. La première chanson qui va se présenter, on va la mettre pour les plaisirs, pour votre plaisir, aussi pour les plaisirs de toutes ces femmes qui nous suivent en ce moment, partout en RDC, à Kananga, particulièrement à travers le monde entier, grâce à notre site internet www.radiocapu.net. On écoute la chanson et puis on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Oh yeah, yeah. parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Un grand témoin, vous pouvez découvrir aujourd'hui Annie Bambe Tshikunda, elle est militante des droits de la femme et défenseur des droits de l'homme, présidente nationale de l'ONGDH FOJEC, c'est un forum pour le droit des jeunes et enfants au Congo qui existe depuis 2006. Parlons de la journée de la femme, Madame Annie Bambe. Le thème retenu cette année, autonomisation et participation politique de la femme congolaise. Qu'est-ce que ce thème vous inspire?
C'est un thème auquel on est habitué parce que ce n'est pas pour la première fois que il est nommé ainsi. On l'a eu déjà, c'est le même thème qui revient parce que c'est un problème crucial pour la participation de la femme dans tous les secteurs de la vie. Il faut que la femme soit autonomisée, que la femme qu'on donne des capacités à la femme, que ce soit les capacités économiques, les capacités politiques. Donc, quand on dit l'autonomisation, qu'on ne voit pas seulement le pouvoir économique. Non, c'est toute capacité, tout pouvoir qui peut faire que la femme soit capable de faire ceci ou cela, qui l'amène à quitter son état d'antan pour aller vers un état supérieur qui est plus meilleur. Donc, il est important.
Et vous pensez qu'il y a un frein ou qu'on n'accorde pas cette chance aux femmes de pouvoir avoir cette capacité-là d'aller de l'avant?
Oui, déjà dans notre pays, si vous observez, même sans faire des statistiques, vous observez, vous verrez que les petits commerces, les petits boulots, ce sont les femmes qui les occupent et que les sphères de pouvoir faire des prises de décision, les femmes n'y sont pas. C'est ça, c'est ce qu'on veut faire de manière à ce qu'on appuie la femme pour qu'elle arrive à accéder dans une sphère de prise de décision. Et ça va l'amener à être, à jouir de mêmes prérogatives que son semblable masculin.
Mais il faut avoir aussi des compétences.
Tout à fait, mais dans les capacités, dans l'autonomisation, il y a les compétences. Donc, moi, je ne suis pas pour la méritocratie, non. Ce sont les femmes, si par exemple, c'est une femme qui n'a pas assez étudié, mais qui excelle dans tel ou tel autre domaine. Bon. Pour elle, l'autonomisation, ça peut être de rentrer aux études, d'avoir un niveau qui peut lui permettre d'aller de l'avant. On peut avoir des femmes, peut-être qu'elle a étudié, mais elle est dans un domaine où elle exerce, mais elle n'a pas, elle ne sait pas accéder au crédit. C'est pourquoi il faut faciliter, par exemple, aux femmes qui se donnent dans des commerces, qu'on quitte les petits commerces, qu'on ait des grandes femmes d'affaires ici au pays. Nous n'avons pas de grandes femmes d'affaires. Il n'y en a pas assez ici. C'est compté au bout des doigts. Or, ce sont les femmes d'affaires, ce sont les hommes d'affaires qui fabriquent les politiques. Ce sont ceux qui soutiennent les politiques. Mais aussi longtemps qu'il n'y aura pas de grandes femmes d'affaires, de grandes femmes dans le business, comment espérons-nous changer le monde politique? Donc il faut vraiment creuser, chercher comment on doit à tout moment appuyer la femme de manière à ce qu'elle ait les compétences, elle ait les capacités d'évoluer.
Est-ce que vous pensez que l'homme a une responsabilité dans tout ça?
La responsabilité peut être négative comme elle peut être positive. Hein. Il ne faut pas voir seulement les choses dans le mal, il faut comprendre aussi le contexte dans lequel nous vivons. Beaucoup de choses sont liées à notre culture. Hein. On a une culture des fois qui n'est pas aussi mauvaise, hein? mais il faut voir de quelle manière on prend les choses. Mais ce qu'on doit dire est que pour que les choses marchent, il faudra que et les hommes et les femmes voient dans la même direction.
Mais est-ce que le problème aussi, c'est pas du côté des femmes? C'est vrai qu'il y a des femmes compétentes, mais qui veulent pas s'afficher, qui veulent pas prouver leurs compétences. Déjà, elles ont un certain complexe, disons que l'homme est supérieur à la femme. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un frein pour ces femmes-là?
Il y a des choses qui sont liées à notre culture. C'est pourquoi il est important qu'un programme soit mis en œuvre pour que ces femmes soient éduquées, sensibilisées, de manière à ce qu'elles changent leurs options. Des fois, elle est là, elle a envie, mais elle a peur parce que notre société n'accepte pas que la femme parle en public. Les quelques qui parlent en public, des fois, elles sont prises pour des hommes. D'ailleurs, on dit, oh, toi, quand on parle en public, mais toi, tu es comme un homme. Voilà. Et les femmes, des fois, elles reculent. Mais il faut que le gouvernement, l'État congolais, développe des mécanismes, développe des politiques à ce que l'autonomisation de la femme soit effective afin qu'elle participe à la sphère de pouvoir.
Participation politique de la femme congolaise, on n'a pas, c'est aussi un problème, hein, et on n'a pas beaucoup de femmes politiques actives quand même en RDC.
C'est un problème, c'est toujours lié à notre éducation. Il y a deux choses, c'est lié à notre éducation, c'est lié aussi à la volonté politique. Parce que moi aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que depuis 2006, que la constitution a été effective, la nouvelle constitution votée au référendum, qui consacre la parité dans son article 14, que jusqu'à aujourd'hui, qu'il n'y ait aucun mécanisme pour que les femmes accèdent à des postes de responsabilité, que cet article 14 demeure insignifiant dans cette constitution comme si ça ne représentait rien. Non, ça, il y a un problème du côté des politiques, il y a un problème de volonté politique. Parce que si on veut que ça marche, on doit mettre en place des mécanismes pour l'effectivité de la parité.
Les femmes doivent se battre pour arriver à faire respecter cet article.
Tout à fait.
Arriver à convaincre les hommes à pouvoir les accompagner aussi.
Je le dis que le combat, il est commun. C'est un combat des hommes et un combat des femmes. Le combat de l'effectivité de la parité, de la participation politique de la femme, c'est un combat où l'homme doit vraiment appuyer la femme, parce que vous savez, les hommes, ils se disent que non, nous sommes déjà là, les femmes viennent, c'est pour qu'elles viennent nous remplacer. Non, ce n'est pas pour remplacer les hommes. Les hommes qui sont là seront là. Les femmes qui sont là continueront à se battre pour demeurer, mais c'est pour les générations futures. C'est pour nos filles, nos petites filles, pour ces filles-là qui n'ont pas une voix. Les sans voix, comme on le dit, pour lesquels. Ce n'est pas aujourd'hui, la participation politique aujourd'hui, ce n'est pas pour moi. Moi, je sais me battre. Moi, je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'y arrive. Mais il y a des femmes qui ne peuvent pas. Pour qu'elles y arrivent, il faut qu'on mette en place des mécanismes. Par exemple, pour les postes de désignation. Ça demande quand même que l'homme y mette la main. Pour les postes électoraux, dans des assemblées électives, là c'est tout à fait normal. On est en compétition. Si les électeurs optent pour la femme passe. S'ils optent pour l'homme, l'homme passe. Mais c'est surtout pour les postes de désignation, où il y a une autorité qui a une signature. C'est là où il doit vraiment veiller que la femme aussi se retrouve. C'est ça ce que nous demandons. C'est ça ce que l'article 14 impose.
Mais aujourd'hui, en RDC, il y a quand même des femmes qui ont la signature.
Non, il n'y en a pas assez. Hein. C'est moins de 10%. Il n'y en a pas assez. Hein. La majorité des femmes qu'on voit émerger, ce sont des femmes qui travaillent dans l'informel, qui travaillent dans les associations, dans l'humanitaire. C'est un bon travail qu'elles abattent. Elles ont prouvé suffisamment qu'elles sont capables de faire quelque chose. Mais nous voulons même que maintenant que ça soit dans les politiques ou là où se prennent des décisions de la vie de la nation, que la femme participe. Parce que la femme a toujours, je ne voudrais pas être sexiste pour dire que la femme a une touche qui est différente, une sensibilité différente de l'homme. Hein? Il faudra quand même que là, que les politiques s'y mettent, hein, qu'ils mettent la main à la pâte.
À vous entendre, on a l'impression que le bilan qu'on peut faire sur l'égalité homme-femme est négatif en RDC.
Mais tout à fait, ça, il n'y a pas de honte à lui dire. Le bilan est très, très négatif et nous sommes en retard. Il y a des pays qui n'avaient pas dans leur constitution inscrit la parité, mais qui sont arrivés aujourd'hui à la parité. Il y a des pays. Mais nous qui étions parmi les premiers pays à inscrire dans la constitution la parité, non, nous ne sommes qu'à la case de départ. Même aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'au Parlement, il y a 54 ou 57 femmes députées sur 500, si je ne m'abuse pas. Mais ce chiffre est arrivé, c'est parce qu'il y a certains députés qui avaient leur suppléante, et qui sont nommés au gouvernement. Et quand ces ministres vont rentrer, on n'aura plus ces chiffres-là. Ça, c'est aussi un problème. C'est aussi un problème. Donc, ça ne favorise pas l'accession de la femme dans des sphères de prise de décision. C'est pourquoi moi, j'ai toujours, même si ce n'est pas l'objet de notre débat, mais j'ai toujours été contre cette option d'avoir modifié la constitution pour que le siège du député soit récupéré après un poste. Non, on sait que c'est un siège qui est obtenu sur une liste. Donc c'est les efforts, le couronnement des efforts de tous ceux qui ont participé à la liste. Donc ce n'est pas un siège individuel. Donc je ne sais pas comment on a laissé passer ça. Et ça ne profite pas à l'émergence de la femme.
Alors pour avoir beaucoup de femmes au Parlement, il faut que ces femmes, il faut qu'il y ait aussi beaucoup de femmes qui postulent comme candidates aux législatives.
Tout à fait.
Mais malheureusement...
Mais il y a justement le problème.
Elles ne sont pas.
Oui, ils ne sont pas parce qu'il y a le problème avec la configuration de notre société. Il y a le problème de moyens. Hein? Vous savez, ailleurs... On n'a pas besoin d'argent à donner aux électeurs pour se faire élire. Hein? Vous avez vos affiches, vous pouvez avoir quelques t-shirts, même si vous n'en avez pas suffisamment. Vous avez les casquettes, des petites choses que vous donnez pour la publicité. Mais ici chez nous, vous devez donner de l'argent aux électeurs. Et ça, la femme qui est pauvre au départ... qui travaille dans l'informel, qui n'a pas suffisamment de moyens pour faire face à la campagne, qui est plus masculine que féminine. Donc c'est pourquoi on voudrait que l'autonomisation, que la participation politique, pour que ça marche, il faut que ça aille de pair avec l'autonomisation de la femme. Donc si la femme est bien outillée, la femme est bien appuyée, je crois que ça peut aller. Ça sera un début, ça ira.
Alors c'est une des solutions pour permettre à la femme de pouvoir émerger.
Tout à fait. Hein? Et puis qu'on facilite l'accès au crédit. Vous savez, quand nos partenaires hommes demandent le crédit, ils ont plus de garanties. Hein? Et ils demandent le crédit, ils peuvent aller à une banque, ils sollicitent un crédit. Et il obtient le crédit, mais ce n'est pas la même chose pour la femme. Il y a cette discrimination-là.
Alors, Annie Bambé, la réalisation me signale qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Le temps passe tellement vite. Il y a beaucoup de choses à dire sur la journée de la femme ou sur le mois de la femme et par rapport même au thème retenu cette année en RDC, autonomisation et participation politique de la femme congolaise. Un conseil à donner à toutes ces femmes qui nous suivent en ce moment partout en RDC, partant de votre expérience. Il faut sortir de la peur, savoir s'exprimer.
Je voudrais profiter de ce moment pour d'abord souhaiter à toutes les femmes de Kinshasa, à toutes les femmes de la RDC et du monde entier une bonne journée de 8 mars. Cette journée, c'est une journée où on doit faire le bilan des avancées, on doit faire le bilan de ce qu'on a gagné depuis pour notre pays, depuis 2006 qu'on a inscrit la parité dans la Constitution. Qu'est-ce qui a évolué? Et le combat de la femme, le combat des hommes doit être d'arriver à ce que on arrive à matérialiser la parité. La parité n'est pas synonyme de la femme seule. Non, c'est le genre. Il y a le genre qui est dedans, donc genre masculin, genre féminin. C'est parce que dans notre pays, il y a eu une injustice où la femme est restée à marge. C'est pourquoi, quand on veut corriger, ce sont les femmes qu'on amène sur le plateau. Mais c'est un problème et des hommes et des femmes. Si nous pouvons conjuguer les efforts ensemble, nous mettre main dans la main, marcher main dans la main pour que la parité soit effective dans notre pays.
Vous pensez qu'elle le sera
un jour? Elle le sera. C'est pour bientôt. Elle sera. Moi, j'y crois.
Bientôt, pas le bientôt de
la Bible. Dans moins de... je ne voudrais pas donner des dates et je ne voudrais pas sortir une prophétesse de mal. Non, mais je vous dis, j'y crois.
Mais c'est sûr, vous y croyez,
je crois très bientôt.
Effective, cette parité.
Cette parité sera effective parce que notre pays a mis ça dans la Constitution. Donc c'est une obligation, ça doit se réaliser.
Merci beaucoup Annie Bambe Tukunda, c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission pour partager votre expérience avec les auditeurs de Radio Okapi. Merci à Alain Goy qui était à la prise de son micro Kevin Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Encore une fois, bonne fête à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.